Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Dieu est un Dieu merveilleux. Amen.
Imana ni nziza.
Et il faut apprendre à mieux le connaître, à mieux le servir.
Dukwiye kwiga kuyikorera neza, kuyimenya kurusha.
À mieux l'aimer.
Kuyikunda kurusha.
Afin que vraiment nous puissions voir la gloire de son royaume ici.
Dushobore kubona ubwiza bw'ubwami bwayo.
Parce que nous sommes appelés à voir la gloire du royaume de Dieu ici.
Duhamagariwe kubona ubwiza bw'ubwami bw'Imana.
Nous sommes appelés à voir des changements et à créer des changements.
Duhamagariwe guhindura no kubona ibintu bihinduka.
Mais pour cela, il faut que nous puissions comprendre, avoir l'intelligence du royaume et des trésors du royaume de Dieu.
Kubwivyo turasabwa kugira ugutahura n'ubwenge bw'ubwami bw'Imana.
Ce matin, nous allons parler de cette vallée qu'il peut y avoir et qu'il devrait y avoir dans notre vie.
Turagomba kuvuga muri kano gatondo ku myonga canke ku biyaya bishobora kuba mu buzima bwacu.
Nous allons parler de ce que c'est qu'une vallée.
Turavuga icyo ari cyo ikiyaya canke umwonga.
Nous allons voir de par quoi nous passons parfois.
Turagomba kuvuga ku bijanye n'ivyo dushobora kubamwo gucamwo.
Ce pourquoi Dieu veut que nous passions par des vallées. Nous allons découvrir qu'il y a toujours une rencontre avec Dieu dans chaque vallée par lesquelles nous sommes supposés passer. Dans la Bible, il y a parfois des vallées qui sont synonymes de d'immenses difficultés.
Muri Bibiliya hariho ahantu batwereka ingene imyonga ishobora kuba igicapo cy'ibigorane zikomeye.
Mais il y a aussi des vallées où il y a des rencontres de gloire et de vision.
Hakaba n'indi myonga usanga abantu bahuriraho n'ukwerekwa n'ubwiza bw'Imana.
Et là j'aimerais vous aider à comprendre comment doit être constituée votre vie par rapport à ce que Dieu vous demande.
Ndagomba rero kubereka uburyo ubuzima bwacu bukwiye kuba bumeze kugira ngo ivyo tubicemwo nk'uko Imana ibisaba.
Nous allons lire un texte dans Deutéronome 8 verset 7 qui va être un peu notre je dirais une image pour nous.
Turasoma gusubira mu vyagezwe igice cy'umunane umurongo w'indwi.
Donc Deutéronome 8 verset 7.
C'est
Dieu qui parle au peuple d'Israël. Bien sûr, eux, ils avaient un héritage où c'était une terre, c'était la Palestine. Et je vous rappelle que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est souvent une ombre pour nous, des choses à venir. Nous avons le meilleur. La culture de l'échec et du malheur parmi les chrétiens, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans l'ADN de la plupart des chrétiens. Alors que Dieu veut autre chose. Dieu avait inculqué sa culture du ciel au peuple d'Israël en leur montrant l'abondance, en leur montrant la grâce, en leur montrant beaucoup de choses que Dieu faisait pour eux. Et Dieu leur disait ici, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, voyez, pas un mauvais pays. Et il disait ici, pays de cours d'eau, de sources, de lacs où jaillissent, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Nous allons voir qu'il y a toujours des sources que Dieu met dans les vallées. Les différentes vallées que nous allons étudier dans la parole de Dieu et par lesquelles nous devons passer si vraiment nous voulons être un chrétien accompli. Vous savez, il y a une différence entre être un chrétien béni et un chrétien accompli, comblé.
Voilà,
On va expliquer un peu plus sur cet aspect d'être comblé. Mais il y a cet aspect d'être béni quelque part. Et la bénédiction, souvent, c'est des choses qu'on peut voir dans notre vie, dans un domaine ou un autre de notre vie. Mais la Bible nous parle d'être comblé. C'est-à-dire que ça déborde de partout. En fait, cela crée dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, la gloire de Dieu qui s'y infiltre. Être comblé par Dieu, c'est ne pas être simplement béni. Vous voyez, la bénédiction est une étape. Être comblé, c'est beaucoup plus profond. Parce que tu peux être béni et ne pas être pleinement dans la réalisation de ta destinée. Être comblé impliquera que ta destinée commence à être remplie. Donc entrer dans ta destinée, c'est vraiment commencer à être comblé par Dieu. C'est-à-dire que tu rentres dans ce que vraiment Dieu a, le pourquoi Dieu t'a créé. La bénédiction t'amène à un certain temps de bonheur parce que pendant un temps tu as souffert de certaines situations et Dieu d'un seul coup te bénit dans tel ou tel ou tel domaine. Mais être comblé, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a un certain nombre de vallées par lesquelles nous devons passer et converger jusqu'à temps d'être comblé par Dieu. Il y a des vallées qui se trouveront dans le désert. Mais il y a aussi des vallées qui se trouvent dans vos promesses. Avant d'arriver dans le pays promis, les Israélites devaient passer dans le désert. Et ils ont rencontré certaines vallées qui sont des images évidemment pour nous. Dans chaque vallée par lesquelles tu vas passer, il y a une opportunité de défaite ou une opportunité de victoire pour ta vie. Il y a une opportunité de rester dans cette vallée toute ta vie. Et là, c'est la défaite. Ou il y a une opportunité pour toi de pouvoir marcher dans la victoire, c'est-à-dire avoir cette source d'eau que Dieu va faire jaillir, cette source de vie. Que Dieu veut faire jaillir dans cette vallée et qui va te permettre d'aller dans une autre vallée. Les vallées du désert sont des vallées qui nous font souffrir. Ce sont des vallées où nous ne voyons pas les promesses de Dieu s'accomplir. Ce sont des vallées où Dieu va travailler et veut travailler en nous d'abord. Parce que sache une chose, tu ne pourras jamais rentrer dans le pays promis, ton pays promis, tant que tu n'auras pas passé successivement les vallées du désert de manière victorieuse. La première vallée du désert que nous allons voir, c'est la vallée de nos erreurs. J'ai pas dit la vallée de nos horreurs, j'ai dit la vallée de nos erreurs. On va regarder un texte qui va nous illustrer cela, qui est dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, cela va nous illustrer, c'est une illustration que je prends ici, et c'est tout à fait volontaire. Donc c'est tout le chapitre jusqu'au verset 26 et on va le lire rapidement uniquement en français. Il est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, etc., etc., de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, c'est-à-dire qu'on devait détruire, qu'on ne devait pas prendre comme butin. C'est ça, une chose qui était dévouée par interdit, Dieu disait, vous allez conquérir un endroit, et vous détruisez tout, vous n'emportez rien avec vous. C'est
ça que je voulais dire.
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel. Et il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Verset 3, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes d'environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Donc, c'est le peuple de Dieu qui se fait dominer. Regardez bien ici. C'est le peuple de Dieu qui devait dominer, qui se fait dominer ici.
Muri iki gisomwa abantu b'Imana bahamagariwe kuganza, ariko ngaha nibo baganjwe.
Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis les portes jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?» Vous voyez, pour eux, pour les Israélites, Israël ne devait jamais être dominé. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et les ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifie-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérah fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérah et la maison par maison et Zabdi fut désigné. Verset 18, il fit approcher la maison de Zabdi par les hommes et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda fut désigné. 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Et les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et les firent monter dans la vallée d'Akor. Regardez bien la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu et on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Donc, on peut lire le verset 24, 25 et 26 en Kirundi, s'il vous plaît. Juste les derniers versets.
Bona bahungu biwe n'abakobwa biwe n'inkazi we n'indogobazi we n'intamazi we n'ihemagiwe n'ivyo yarafise byose babidugana mu kiyaya ci akori maze Yosuwa aravuga ati niki cyatumye duteza amagogwa na uyu munsi uhoraho aragutera amagogwa maze abisirayeli bose bamutera amabuye babicisha amabuye barabaturira baraheza bamurunda ku kirundo kinini cy'amabuye kiracariho na bugingo n'ubu maze uhoraho arigarura uburake bwiwe bw'inkazi burahwama nico cyatumye izina ryaho hantu hitwa ikiyaya akori na bugingo n'ubu.
Alors, accord, ça veut dire affliction, ça veut dire tourment.
Akani bisobanura kubabazwa kuremegwa.
Accord, c'est la vallée. Pas Akan, accord.
Accord, ikiyaya rero accord, apane rya zina akani bisobanura ngo kuremegwa kuzazanirwa imibabaro.
La vallée qu'il est nommée ici ou qu'on a nommée ici, c'est la vallée de l'affliction, la vallée du tourment. Bien sûr, quand vous lisez un tel texte, nous sommes dans l'Ancien Testament et vous devez faire attention. Là, le péché d'une personne avait des conséquences sur tout le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Israël avait une alliance nationale. Quelqu'un qui péchait parmi le peuple, qui par exemple prenait un certain nombre de choses qui étaient dévouées par interdit, qu'il devait détruire, il désobéissait à Dieu. Et ça amenait des conséquences sur le peuple. Là, le peuple se voit dans la défaite et Josué est troublé. Josué est troublé parce que il dit mais normalement tout le peuple devrait remporter cette victoire. Nous sommes habitués à la victoire. Nous sommes habitués à dominer. Et là nous ne dominons pas. Alors un tel passage c'est une image pour nous. Ça ne s'applique pas à l'Église directement. Mais nous pouvons en retirer des leçons. Des leçons qui sont importantes. Ici, en fait, Dieu était en train de tester l'obéissance de son peuple. Il leur avait dit, dans les conquêtes, il leur donnait des ordres précis. Quand ils allaient dans certains endroits, Dieu, des fois, leur disait, vous détruisez tout. Vous n'emportez rien. À d'autres moments, il disait, vous vous emporterez que telle ou telle chose. Et les Israélites étaient testés dans leur obéissance. Bien sûr, ici, c'est une image. Cette vallée d'accord est une image. C'est le temps pour toi. Quand tu donnes ta vie à Dieu, d'en finir avec tes erreurs et tes péchés. De nettoyer ta vie. Parce que sinon tu vas rester dans cette vallée. Ce sont nos erreurs parfois et nos péchés qui nous coûtent cher et qui nous donnent de tourner en rond et de marcher dans la défaite. Tu ne peux pas marcher dans la victoire si tu n'es pas quelqu'un d'obéissant et si tu continues à ne pas nettoyer ta vie. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, il y a un temps de nettoyage. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dans cette vallée où tu vas subir les conséquences, les conséquences de ce que tu as fait avant. C'est-à-dire qu'il y a un temps où t'es trouvé pécheur, tu es sauvé après. Mais vous savez, des fois, on a les conséquences sur ce qu'on a fait avant notre vie. Avec le Seigneur, avant de rencontrer le Seigneur. Et c'est une vallée où Dieu va te tester. C'est une vallée où tu vas commencer à devoir asseoir tes convictions en Christ. C'est une vallée où il va falloir faire du grand nettoyage. C'est exactement ce que Hébreux chapitre 12 nous dit, versets 1 et 2. Parce que tu ne peux pas marcher dans la victoire. Image des Israélites ici qui n'arrivent pas à conquérir. Image des Israélites qui se font battre devant leurs ennemis. Alors que Dieu leur avait donné la culture de la victoire et de la domination.
Et
ne leur avait pas donné la culture de l'échec et d'être dominé. Dans Hébreux 12, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous les héros de l'Ancien Testament qui ont marché par la foi. Dieu dit alors, rejetons tout fardeau, tout ce qui était passé et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière ou dans la course, dans d'autres traductions qui nous est ouverte. Dieu veut qu'il y ait un temps où tu nettoies ta vie. Parce qu'il va falloir que tu fonctionnes sur des convictions. Si tu continues à pratiquer les choses que tu pratiquais avant d'être sauvé,
et
que tu ne veux pas t'en débarrasser, tu vas rester dans cette vallée de tourments, de défaites. Tu vas commencer à avancer. Et certaines choses, des erreurs ou des péchés qui sont là, vont te rattraper. Et vous voyez, ici, les Israélites, ils devaient apprendre l'obéissance. Dieu leur demandait certaines choses. Ils ne devaient pas discuter. Et concernant le nettoyage de notre vie, il y a des choses radicales à faire.
Vous
voyez, la fin de ce passage nous montre et nous donne une image. Versets 25 et 26. Qui est heureux de ne pas vivre sous l'Ancien Testament? Moi, je suis très heureux de ne pas vivre sous l'Ancien Testament. Parce que là, c'était physique ce qu'ils allaient vivre. Ils sont morts, lapidés. Vous savez, Dieu était radical. Pourquoi est-ce qu'il était radical? Parce que c'était des inconvertis. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et quand il y avait quelque chose sur lequel, et en fait, un péché, ça amenait toute une malédiction sur le peuple. Je vous rappelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Nous avons une relation indépendante avec Dieu, chacun d'entre nous. Donc faisons attention à cela. Mais là, directement, il est dit, et tout Israël, la deuxième partie, le lapida et les brûla au feu. On les a lapidés. C'est-à-dire, on a jeté des pierres sur eux jusqu'à temps qu'ils meurent. Et il y a des choses dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu dois les lapider. Je ne dis pas les gens, je dis des choses. Là, ça a été radical. Directement, le jugement est tombé. Tu dois juger des choses dans ta vie. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser directement. Et plus vite tu le fais, mieux ça vaudra. Lapide ces choses, brûle-les. Débarrasse-toi-en. Ça peut être des objets d'une relation avant, quand tu étais pécheur, ou de tout un tas de relations. Tu brûles ça, tu dégages ça. Ça peut être différentes choses que tu as mal acquises. Débarrasse-toi de tes histoires. Sois radical. Dieu ici était radical. Vous savez, il y a parfois des choses qu'on doit faire et qui doivent être radicales dans nos vies. Dans Acte 19, Paul a prêché l'évangile. Et il y avait des gens qui avaient pratiqué la sorcellerie. Et directement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs livres de sorcellerie et les ont brûlés. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles on doit être radical ou radicaux.
Il
faut couper. Prends ta machette spirituelle et
ugafata inkota yawe mu buryo
bw'impwembe, tu coupes directement
ugaca
la racine de ce truc là,
ugacacura umuzi w'ico
kintu, pour pas rester dans cette vallée,
kugira ngo ntugume muri uwo mwonga,
la racine de tes erreurs aussi,
umwonga w'amakosa yawe,
quand tu marches avec Dieu,
iyo ugendana n'Imana,
t'es là, tu fais ces erreurs,
ukaburiga ugakora ayo makosa,
et tu recommences et tu dis c'est pas possible,
ugasubira ukabigwamo ukavuga uti nibishoboka,
sois radical,
ariko fata
amahoro, il y a des choses vraiment. Il faut savoir être absolument radical par rapport à ça. Si tu les laisses traîner dans un coin, ça reviendra parce que ce n'est pas loin de ta vie. Et dans cette vallée, si tu veux être tourmenté, si tu veux que ça ne marche pas dans ta vie spirituelle, laisse ces trucs qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu vas avoir des problèmes. Tu resteras dans cette vallée. Rappelez-vous que dans chaque vallée, il y a une opportunité de victoire, mais aussi une opportunité de défaite. Il y a une opportunité de rester là où tu es, ou au contraire, il y a une opportunité pour aller dans une autre vallée. Et d'avancer avec le Seigneur. Et ils s'en sont débarrassés. Donc c'était radical et c'était vraiment quelque chose qui était spectaculaire. Je vous garantis, les gens qui ont lapidé, les gens qui ont brûlé, ces gens-là, cette famille-là, je vous garantis, les autres qui ont vu ça, ils se sont dit, jamais je ferai ça moi. Jamais je pêcherai comme ça.
Sinkekeranya ko ababonye ibyo bintu byabaye babateye amabuye babaturiye baravuze bati singomba kwigereza ko.
Jamais je toucherai aux choses interdites par Dieu.
Sinzokora kuvyo Imana yafashe ko ari nyego yayo.
J'ai pas envie de finir comme ça.
Singomba kurangiza nkujya.
Ensuite verset 26.
Umurongo wa 26.
Il est dit on éleva sur un camp un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Donc il y a une sorte de mémorial, quelque chose dont on se souvient.
Ngo baraheza bamurunda ku kirundo kinini cy'amabuye.
Quelque chose dont on se souvient.
Ikintu caboneka nka ari nk'ikintu cy'icibutso.
Que ce soit des choses dont tu t'es débarrassé.
Byaba ibintu wiyambuye.
Dans ta vie.
Mu buzima bwawe.
Que ce soit des erreurs sur lesquelles que tu as vraiment enterré une bonne fois pour toutes dans ta vie.
Yaba amakosa wahamvye rimwe ritarenga mu buzima bwawe.
Donne-en un bon témoignage.
Nubitangire ntahe nziza.
C'est-à-dire sois capable. Un jour de dire autour de toi pour édifier l'église, pour aider d'autres personnes, d'être capable de dire voilà ce genre de truc dont j'ai dû me débarrasser dans ma vie, et tu rends témoignage. Il y a un témoignage qui doit être fait pour aider les autres. Ici, pour eux, c'était un monceau de pierres, c'est-à-dire ils mettaient des pierres les unes sur les autres sur les tombes. Et à chaque fois que le peuple d'Israël passait, ils disaient « Ah, ah, vous vous souvenez ? » Ça, ça a été la destruction d'une famille parce qu'elle avait péché contre
eux.
Donc cette vallée, tu peux la passer. Et tu ne pourras jamais courir ta course, comme nous le dit Hébreux 12, si tu refuses de vouloir apprendre l'obéissance, si tu refuses de te soumettre à Dieu. Certains, vous souffrez depuis des années à cause de cela. Parce qu'il y a de la rébellion dans votre cœur. Parce qu'il y a aussi du péché qui reste depuis des années et des années et des années et des années, chose que dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Et c'est pour ça que tu restes dans cette vallée de tourment. Un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. Constamment ta vie spirituelle est comme ça en dents de scie. Peut-être que tu viens à l'église El Shaddai depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, mais tu as déjà fait 3 ou 4 églises et entre-temps, tu as rétrogradé 4 ou 5 fois de vitesse. Parce que ce qui empoisonne ta vie, c'est ça. Il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser une bonne fois pour toutes pour être stable dans le Seigneur et passer à l'étape suivante. tant que tu ne le voudras pas le faire, tu ne vas pas pouvoir sceller les convictions importantes de ta vie spirituelle. Tu vas te retrouver dans cette vallée de tourments, cette vallée où tu sens vraiment qu'il y a des moments où ça a l'air de bien aller avec Dieu et il y a des moments où ça recommence. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dont tu dois te débarrasser radicalement. Il y a vraiment des fois où on doit se débarrasser de certaines choses. Je me souviens un jour d'une sœur comme ça,
hein,
qui avait commencé il y a bien des années. Et il y avait un problème, elle avait un problème de copain. Elle était revenue au Seigneur. Et il a fallu qu'elle prenne la décision de couper une bonne fois pour toutes. Et ça a été difficile. Mais elle l'a fait. Et depuis ce jour, elle a marché radicalement avec le Seigneur. Il y a des fois des trucs qui nous empêchent. D'autres, ça peut être ta relation avec l'argent. D'autres, ça peut être d'autres trucs que tu fais. De la tromperie.
Des
histoires de mensonges.
Etc.
Coupe radicalement, sinon tu vas rester dans la vallée d'accord. Ta vie sera un tourment. Ta vie va rester dans la même vallée, dans cette vallée d'accord. Et tu ne commenceras pas à courir ta course. Nous sommes dans les vallées du désert, ce sont les vallées difficiles. Mais les vallées formatrices. Parce que lorsque tu es dans une vallée, pour l'instant les vallées du désert, eh bien sache une chose, quand tu prends la bonne décision. Et là, ça a été d'éradiquer le péché. Qu'est-ce qui s'est passé après? Si vous lisez la suite de Josué, ils vont recommencer à dominer. Donc il y a forcément une source divine dans chaque vallée.
Et
il y a des moments où vraiment tu dois prendre cette décision. Tu es le seul à pouvoir la prendre. Et à ce moment-là, quand tu as tué cet aspect-là, ce truc-là qui te dérangeait, tu l'as brûlé entre guillemets, tu t'en es débarrassé, alors Dieu va ouvrir une source et tu vas recommencer à dominer. Et la décision t'appartient, mon frère, ma
soeur.
Il y a des choses, vous savez, il faut prendre des décisions. Prends la décision et c'est là où Dieu coule dans ta vie à nouveau. Il y a une source d'eau partout dans chaque vallée. Il y a une opportunité de victoire dans chaque vallée. Et prends ce chemin-là. Prends cette décision-là. La deuxième vallée que nous devons traverser, c'est la vallée des souffrances. On va parler de persécution et de souffrance. Mais là, on va voir aussi, encore une fois, comment c'est formateur pour nos vies. Dans le psaume 84, au verset 6, il nous en est parlé. Et ne vous faites pas d'illusions. Si vous voulez aller loin avec Dieu, s'il y a un grand appel de Dieu dans vos vies, il y aura des souffrances. On va lire un peu plus haut parce qu'il y a des décalages de versets ici, à partir du verset 5. Heureux, donc ça peut être au verset 5 ou au verset 6, ça dépend des versions. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 6. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
Hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, hahigwa abafise mu mitima marangaje Siyoni, iyo baciye mu mwonga witwa marira, bawihindura ahantu hamariba, mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha.
Baca, ça veut dire souffrance, ça veut dire pleurs.
Aha anye ni amarira, umwonga wa marira.
C'est une vallée qui est toujours difficile. Vous voyez, la première vallée, quand tu, quand tu es sorti d'Égypte, c'est-à-dire tu sors du monde pour entrer dans le royaume, c'est cette vallée d'accord où tu dois vraiment couper avec le péché. Où tu dois nettoyer ta vie. Où tu dois dire maintenant, je refuse de retourner en Égypte et ma destinée, c'est le pays promis. Là où coule le lait et le miel. Mais tu commences avec le Seigneur, donc tu ne sais pas, tu es maladroit. Tu es ignorant, c'est normal. Quand on commence avec le Seigneur, on est maladroit, on est ignorant, on ne sait pas comment faire. On
n'a
pas de sagesse, on n'a pas d'intelligence du royaume, on subit les circonstances, on subit les choses de notre vie passée, encore, les conséquences, mais on est né de nouveau, on a reçu Jésus. Une fois que tu as commencé et que tu coupes vraiment ta vie avec le péché et les erreurs que tu as fait au début de ta vie chrétienne, alors il va souvent y avoir la vallée des souffrances. Et la vallée des souffrances, elle peut se manifester de deux façons. Parfois, nous souffrons inutilement à cause de notre stupidité, de notre manque de maturité. Par exemple, Joseph, il avait reçu des grandes visions et des beaux rêves de la part de Dieu, et il a souffert à cause de son manque de maturité et de son orgueil de gamin. Et parfois nous passons au travers de cette vallée de
Bakar
parce que justement nous-mêmes nous nous sommes mis dans des souffrances par un manque d'intelligence du royaume, par un manque de sagesse, parce que nous faisons des choses qui finalement nous amènent dans des ennuis, que nous n'avons pas compris que 90% des problèmes que nous avons, nous en sommes les générateurs. Et on se retrouve toujours dans ces systèmes-là. Et là, tu souffres inutilement parce que tu manques de sagesse. Parce que tu
ne
fais pas ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a aussi une autre souffrance, qui est la souffrance que nous ne provoquons pas, mais qui est une souffrance à cause de nos convictions et de notre foi. Tu as reçu le Seigneur et tu es dans ta famille et ta famille fait tout pour t'empêcher de continuer avec le Seigneur. Tes collègues de travail savent que tu es devenu un chrétien né de nouveau. Et ils font tout pour se moquer de toi et pour te faire des coups. La Bible nous parle de la persécution du juste. À partir du moment où tu es né de nouveau et que tu as une grande destinée, ne pense pas que le diable te laissera tranquille. Quand tu amènes des âmes au Seigneur, ne pense pas que le diable te laissera tranquille. Et il y a la persécution contre le juste. Et il y a des moments de souffrance où tu souffres à cause de tes problèmes de caractère. Tu souffres sur ce que les autres disent de toi. Et dans ce temps, dans cette vallée, c'est un temps de construction de ton caractère. Dieu va utiliser cette vallée des souffrances pour construire ton caractère. Tu as des promesses de Dieu, mais pour l'instant, tu ne vois rien de ces promesses. Et tu souffres. Et tu dis souvent au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre autant que ça? Et des fois, Dieu ne te dit rien. Vous savez, des fois, il y a des silences de Dieu qui nous parlent beaucoup plus que s'il nous adressait directement la parole. Il y a des fois des moments où le Seigneur ne s'exprime pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on connaît très bien la réponse.
Vous n'avez
jamais remarqué ça dans votre vie spirituelle?
Ben,
si vous
ne
l'avez pas encore remarqué, vous allez le remarquer.
Et
il y a des fois, Dieu n'a même pas besoin de nous parler parce qu'on connaît très très bien la réponse. Ça
ne
vous est jamais arrivé de dire ça à un de vos enfants? Pourquoi est-ce que je te le dis? Parce que tu connais très bien la réponse. Pourquoi est-ce que je te le dirai encore? Tu connais très bien la réponse. Et vous savez, il y a des choses, des fois, dans notre vie, par lesquelles nous devons passer. La souffrance biblique. Je vous rappelle, je ne parle pas de maladie, de manque, de quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas une souffrance biblique. Je vous ai enseigné plus d'une fois sur la souffrance. Et ici, dans cette vallée, cette souffrance va t'apprendre et va construire en toi le caractère de Christ. Parce qu'il y a des choses que tu vas réaliser, tu souffres souvent à cause de ta propre chair. Et il y a des moments où, parce que ta chair est encore bien vivante, tu réagis à des situations et tu te retrouves à souffrir inutilement à cause de travers de caractère. Mais tu commences à découvrir que finalement ce n'est pas de la faute des autres, mais tu commences à réaliser que c'est ta propre faute, de tes propres travers de caractère, et tu te dis à toi-même: mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que telle ou telle chose me fait réagir comme cela?
Et
là, tu es sur le bon chemin. Rappelez-vous que dans chaque vallée, il y a une opportunité de victoire, mais il y a une opportunité de défaite. Et dans cette vallée de la souffrance, c'est là où tu es à l'école de Dieu. C'est là où Dieu te prépare et te change. Tu aimerais bien voir les visions et tout ce que le Seigneur t'a donné se réaliser, mais rien ne se réalise, et tu es là à souffrir. Tu es là à te poser des questions. Tu es là à te dire: là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Parce que Dieu est en train de vouloir travailler ton caractère. Et il
n'y
a rien de mieux que la souffrance pour travailler notre caractère. Ça fait mal à la chair, mais ça fait du bien au caractère. Et nous n'aimons pas cela. On veut que tout se passe tranquillement et doucement. Mais Dieu utilise cette école. Joseph encore en est un exemple vraiment particulier. Dieu a travaillé son caractère au milieu de la souffrance. Et il est devenu ce qu'il était. Parce qu'il a laissé Dieu forger son caractère. Dans la vallée de Baca, ce n'est pas simple. Tu souffres. Et tu souffres soit à cause de tes défauts, soit à cause des persécutions sataniques. Mais cela va travailler en toi. Cela va te forger. Cela va te préparer justement pour ta destinée. Et là, dans cette vallée de Baca, tu apprends, si tu réagis, si tu réponds correctement, tu apprends à dépendre de Dieu. Et c'est là aussi où ta foi est travaillée. Parce que c'est au milieu des difficultés que tu apprendras les plus belles leçons de foi. C'est au milieu des moments où les autres ne peuvent rien pour toi, ou même tu peux te sentir abandonné de tout le monde, où ta foi réelle va se manifester. Si tu sais répondre divinement à ces problèmes, C'est là où ta foi va être travaillée. C'est là où elle va commencer à produire réellement. C'est là où la connaissance de Dieu est transformée en expérience divine. C'est là où Dieu te forge d'une façon spéciale. Et ce sont des expériences que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Parce que sachez une chose, lorsque tu es dans un sommet quelque part, c'est que tu as traversé d'abord une vallée. Avant chaque sommet, il y a une vallée. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à passer chaque vallée. Cette vallée de la souffrance est vraiment quelque chose qui est très précieux pour l'école de Dieu dans nos
vies.
Et là, tu as une opportunité gigantesque. Une opportunité de quoi ? De te plaindre, rester dans cette vallée toute ta vie,
peut-être
comme beaucoup de chrétiens qui disent « Oh, ce sont les fardeaux de la vie. Oh, il m'arrive encore ça. » À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui tourne autour d'un quartier, ça tombe sur moi comme par hasard. Mais non, mon frère, ma sœur.
Tu
n'es pas le plus malheureux ou le plus misérable des hommes. Au contraire, tu n'es pas appelé à cela. Dieu veut que tu utilises l'opportunité de cette vallée de
Bakar.
Regardez bien, il est dit « il ». Il, ce sont les gens qui sont dans cette vallée. La transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça, c'est l'opportunité de la victoire dans la vallée de
Bakar.
Rappelle-toi, dans chaque vallée, il y a une opportunité de victoire, mais il y a aussi une opportunité de défaite. Le choix t'appartient. Tu peux sortir de cette vallée pleinement dans la victoire avec une source parce que tu as changé les circonstances. Ou alors au contraire, tu peux rester dans cette vallée. Vous voyez, la première vallée, tu peux y rester. Dans la vallée d'accord, tu peux y rester. Mais il y a des gens qui en sortent bien. Qui coupent, qui mettent à mort tout ce qui peut les empêcher d'avancer avec le Seigneur. Et après, tu vas passer dans cette vallée de
Bakar.
La vallée où tu vas souffrir. La vallée où tu vas faire des choses et d'un seul coup, l'ennemi va tout faire pour essayer de te freiner. La vallée où tu es dans la marmite et ça boue tout le temps et la température ne baisse pas. Ça fait mal, mais c'est formateur. Ce n'est pas évident à passer, mais c'est quelque chose que tu dois comprendre et une école par laquelle tu dois passer. Il n'y a pas de destinée accomplie sans l'école de la souffrance. Les gens veulent le chemin facile, mais Jésus a dit que le chemin était étroit. L'école de la souffrance est quelque chose de biblique, frère. C'est formateur et ça a été très mal enseigné ou on ne veut plus l'enseigner. Et c'est pour ça que nous avons des chrétiens souvent qui sont sans conviction. Si vous voulez marcher dans les convictions, il faut que vous passiez par la souffrance. Vous serez éprouvés dans vos convictions. Et il y a des gens qui essaieront de renverser vos convictions.
Et
il y a des instruments sataniques qui essaieront de tout faire pour vous renverser. c'est pour ça que tu dois créer dans cette vallée. Toi-même, transformer cela en un lieu plein de sources. C'est-à-dire savoir faire passer la vie de Dieu au milieu de la pire adversité. Si tu apprends à faire cela, tu vas voir vraiment, tu vas faire ces expériences avec Dieu. Ça va imprimer dans ta nature spirituelle des traces indélébiles, ineffaçables. N'importe qui pourra, après que tu sois passé par cette vallée, te dire, tu sais ce que tu crois là, je ne comprends pas pourquoi tu crois des choses comme ça. Tu seras scellé dans tes convictions. Personne ne pourra te déraciner de tes convictions. Parce que tu sauras par quoi tu es passé. C'est trop facile de regarder des gens qui ont réussi sans leur demander quelles ont été tes souffrances. Ne regardez pas le résultat chez les gens. Cherchez à savoir par quel chemin ils sont passés. Vous en apprendrez beaucoup plus. Il y a trop de gens qui veulent voir le résultat, le produit fini, sans savoir par quoi ce produit est passé, entre guillemets, produit. Et ça, c'est une erreur. Cherche à savoir par quoi les gens sont passés. Les moments, les vallées où ils ont souffert. Les moments où tout semblait être perdu. La troisième vallée par laquelle tu vas passer, c'est la vallée des géants. La vallée des géants. Josué chapitre 15.
Yosua 15.
La vallée des géants. Josué chapitre 15 verset 8.
Yosua 15 murongo 8.
Cette vallée aussi, tu vas être obligé de passer par là.
N'uyu mwonga nawo urawucamwo.
Des choses qui vont tellement t'impressionner.
Ibintu bizoza
bikutera. Que tu pourras même en trembler devant.
Ibintu bizoza bikujugumize.
La Bible nous dit dans Josué chapitre 15 au verset 8.
Kumurongo 8 Yosua.
Elle montait de là par la vallée de Beninon, c'est pas celle-là qui m'intéresse, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Hinnon à l'occident, à l'extrémité de la vallée des Réphaïm, la vallée des Réphaïm au nord.
Gorugaheza rukaduga rukajana umwonga wa mwene Hinomu gushitsa kumucamo umusozi w'abayebusi ahaheri bubanuko niwe Yerusalemu rukaduga gushitsa ku mpinga y'umusozi uhanamiye uwo mwonga nyene wa Hinomu ahahera iburengerazuba niho umwonga Réphaïm wahera ku ruhande rw'iburaruko.
La vallée des Réphaïm, Réphaïm, ça vient d'un mot qui veut dire géant, les géants, Anak.
Umwonga Réphaïm, Réphaïm bisobanura ngo ibigatanya abanaki.
Et dans le désert,
mu bugaragwa,
tu rencontreras souvent cette vallée.
Kenshi n'umwonga nkuyo.
La vallée des géants. À l'entrée de ton pays promis, tu vas rencontrer la vallée des géants. Il y a deux types de géants que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Ce sont les géants de notre vie passée. Je veux dire par là des conséquences ou des choses que nous avons vécues. Ça peut être la pauvreté. La pauvreté est peut-être un géant pour toi aujourd'hui. Quelque chose où tu ne vois aucune issue. Tu te dis, mais j'ai toujours été pauvre, mes parents m'ont élevé dans la pauvreté, je ne connais que ça. Et tu t'es donné au Seigneur. Et tu es toujours dans la galère financière. Ça, c'est ton géant, conséquence de ta vie passée pour l'instant. Ça peut être la maladie. La maladie peut être un grand géant dans ta vie. Régulièrement, elle vient te frapper. Ça peut être un manque d'éducation. Tu n'as pas eu la possibilité, l'opportunité d'avoir eu une bonne éducation. Et ça a créé une immense frustration en toi. Ça a créé du rejet. Ça, c'est un géant qui est conséquence de ta vie passée. Ça peut être des travers de caractère qui sont là et qui t'empoisonnent la vie. Et à chaque fois qu'il y a une situation, ton travers de caractère recommence. Ça peut être la jalousie. Ça peut être la colère. Ça peut être la convoitise. Ça peut être toutes sortes de choses qui empoisonnent ta vie. Et tu sais que tu as ça dans ta vie. Et tu es là et ça représente un géant pour toi. Quelque chose devant lequel tu as jeûné et prié. Et c'est encore pire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des courriers électroniques comme ça en disant « Pasteur, j'ai jeûné et j'ai prié et c'est encore pire aujourd'hui. » Et si c'est encore pire aujourd'hui, ça veut dire que ce n'était pas la bonne solution. Je vous rappelle que la prière n'est pas la recette à toutes les solutions. C'est vraiment la prière à de puissantes réponses, mais la prière seule n'est pas la recette à tout. La réponse à tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se couvrent avec la prière sans vouloir obéir à la parole de Dieu, sans vouloir marcher dans la foi. Et je suis désolé, mais la prière seule ne résoudra pas vos problèmes. N'enlèvera pas les géants dans votre vie. Maintenant, il y a un deuxième type de géant dans cette vallée des Réphaïm qu'on va rencontrer. Ce sont les géants de notre destinée. Ça veut dire que Dieu t'a parlé prophétiquement sur ta destinée. Et Dieu te montre, rappelez-vous, je vous le dis et je vous le répéterai toujours, quand Dieu vous parle. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Mais le pasteur, je ne comprends pas. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est tellement grand pour moi. » Et des choses que Dieu leur a vraiment dites à ces gens. C'est normal que ce soit grand pour toi. Parce que Dieu te voit prophétiquement dans un état d'accomplissement. C'est-à-dire quelque chose qui est terminé. Ce que tu seras prophétiquement. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas une grande révélation. Si Dieu te dit tu es comme ça et comme ça aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il te le dirait, tu le sais déjà. Tu en es là dans ta vie, à ce niveau-là, tu le sais, puisque tu es déjà là. C'est pourquoi Dieu va te parler sur ton futur. Et il te parle dans ta destinée. Et là, il va te montrer des choses qui te dépassent. C'est normal, parce que Dieu te voit prophétiquement. Et pour ta petite tête et ta petite foi, cela représente des grands défis. Ce sont les géants que tu vas rencontrer dans ta vie. Des géants de ta destinée. Tu vas faire et commencer de faire la volonté de Dieu. Tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. Mais il y a des géants de la provision qui te manquent. Et là, tu dis, ok, je sais que je fais ce que le Seigneur me demande. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'accomplir. Ça peut représenter un géant. Ou tu vas dire, je n'ai pas les bonnes relations par rapport à ça. Je ne connais pas telle et telle personne qui pourrait m'aider à faire ça. Il y a plein de choses qui peuvent être un géant dans ta vie. Dans ta destinée. Et tu vas être obligé de passer dans cette vallée aussi. Une fois que tu as quitté les deux autres vallées, il y a cette vallée qui t'attend, cette vallée des géants. Tu vas être obligé de la traverser. Et ça va te demander quelque chose d'important qui s'appelle la foi. Dans Marc 11, versets 23 et 24, Jésus va nous montrer comment relever ces géants.
Et les abaisser.
Et de marcher sur ces géants. Vous savez, quand Dieu a envoyé les 12 explorateurs, qu'on appelle si souvent des espions, mais c'était des explorateurs, dans le pays promis, une des choses qu'ils avaient vues, c'était quoi ? Des géants. Et c'est ce qui leur avait fait peur. Ils avaient dit à Moïse et au peuple, le pays que le Seigneur veut nous donner, il est bon. Oh là là, on a vu des grappes de raisins, on a vu des fruits extraordinaires. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des bonhommes là, ils sont tellement grands. On est comme des sauterelles à leurs yeux. C'est ce qu'ils ont dit. Ça s'appelle exagérer. Parce qu'une sauterelle, c'est grand comme ça. Et quand même, les Israélites, ils n'étaient pas grands comme ça. Mais vous voyez, quand on a affaire aux géants, on a tendance à déformer même des faits. Parce que quand tu rencontres un géant dans ta vie, que ce soit ta vie passée, des conséquences de ta vie passée ou de ta destinée, ça va te faire peur. Parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu abattes devant toi. Et Jésus dira comment faire. Jésus dit, si, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, une montagne, c'est grand, ça représente un géant. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Et au verset
24, Jésus va dire, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans votre vie spirituelle, il y a un certain nombre de géants à abattre, de conséquences de votre vie passée. Et vous le ferez par la foi. Vous devez changer ces circonstances, ces choses que vous traînez à cause de votre passé. Ce dont nous avons parlé, de ces géants qui sont là. Et c'est là où tu transformes les circonstances. Mais aussi, il va falloir que tu apprennes à relever les défis. Parce que si Dieu t'appelle à faire un certain nombre de choses pour lui, il va y avoir des géants que tu vas devoir abattre, que tu vas rencontrer, des défis qui sont devant toi, que tu vas apprendre à relever. Et il y a un mot pour cela, le mot foi. Et c'est là où tu vas éprouver ta foi. C'est là où tu vas grandir dans la foi. Il y a un temps dans nos vies où les géants, conséquences de notre vie passée, doivent être abattus. C'est-à-dire que tu dois vraiment démolir tout ce que tu as pu subir dans ta vie. Le rejet, la pauvreté, la maladie, toutes sortes de choses. Le manque d'éducation. Tu dois donner des réponses divines à ces choses-là que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie. Ou des portes que tu as ouvertes toi-même quand tu étais jeune. Avant de donner ta vie à Jésus. Et tu dois relever ces choses. Tu dois abattre ces géants. Et frères et sœurs, il y a un temps dans nos vies spirituelles où ces choses-là ne doivent plus avoir un impact négatif sur nous. Parce qu'il y a un temps où tu dois détruire ces géants. Et il y a un temps où tu dois construire ta destinée. Tu n'es pas appelé à être tout le temps avec des conséquences de ce qui s'est passé dans ta vie
passée.
Il y a un temps où tu dois dominer sur ces choses et ouvrir la porte de ta destinée. Si tu ne le fais pas, tu resteras toujours dans les vallées du désert. Tu resteras toujours quelqu'un qui va être dans le désert, et le désert n'est pas l'accomplissement des promesses. Le désert, ce n'est même pas la bénédiction. Le désert, c'est s'en sortir jour après jour. Le désert, ce n'est pas avoir une vie accomplie et comblée. Le désert, ce n'est pas porter des fruits pour les autres. Le désert, c'est d'essayer de s'en sortir jour après jour. Ce matin, nous avons vu trois vallées par lesquelles nous passons tous. Où est-ce que tu en es? Quelle est ta position? Est-ce que tu es encore dans la vallée d'accord, en train de te bagarrer avec des choses qui ne plaisent pas au Seigneur et que tu laisses dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à les détruire ce matin et en avoir un mémorial en témoignant que vraiment ça tu t'en es débarrassé? Est-ce que tu es encore dans la vallée des souffrances, la vallée de
Bakar?
Est-ce que tu es là parce que tu souffres à cause de tes travers de caractère, à cause d'actions que tu as encore, d'actes que tu as posés dans ta vie chrétienne et qui te font souffrir inutilement, ou peut-être des gens qui continuent à te persécuter et tu n'arrives pas à dominer ces persécutions? Ou est-ce que tu es en train de te bagarrer dans la vallée des Réphaïm, où il y a encore des géants dans ta vie spirituelle qui sont là parce qu'il y a eu des conséquences, des choses de lesquelles tu n'as pas abattu ces géants qui étaient là avant que tu sois sauvé? Ou est-ce qu'au contraire, tu es en train de relever des défis et Dieu est en train de te donner des sources dans ces vallées qui sont des réponses divines à toutes ces difficultés? La prochaine fois, nous verrons la suite des vallées. Parce qu'il y a des vallées de gloire, des vallées de vision, des vallées de rencontres extraordinaires avec Dieu. Et pour cela, il faut passer par ces vallées du désert. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ta grâce.
Et
je prie que ce peuple sache passer les étapes des différentes vallées, Seigneur, qui sont des vallées parfois très difficiles, mais qui sont indispensables pour passer d'étape en étape, Seigneur, pour courir vers notre destinée. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Soyez bénis, bon dimanche à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.